De retour à État de Splendeur, vous êtes en compagnie de Patrick Assikian et c'est le temps des mûres et des framboises. Il y a 2 semaines, on parlait du fait que c'était le temps des fraises qui venait de débuter, mais là, c'est vraiment les framboises et les mûres et c'est quelque chose dont on n'a pas nécessairement besoin d'avoir en culture. Vous pouvez le trouver partout, c'est de la mauvaise herbe. Et moi-même, j'ai été surpris par un bosquet de mûres au Mont-Royal. J'aurais jamais pensé qu'il y en avait un aussi fourni. Ça m'a donné 1 litre de mûres, mais gros, c'est vraiment intact. Ça m'a vraiment surpris. Et puis, il paraît que c'est possible de se procurer bon nombre de produits comestibles végétaux en ville. Et il y a plusieurs initiatives qui se font de la sorte. Aux États-Unis, il y a même un individu qui se spécialise dans faire des visites guidées de la ville en mettant en valeur tous les produits comestibles qu'on peut y trouver dans les arbres et dans les jardins. C'est quand même assez surprenant. On peut presque tirer sa propre subsistance des produits comestibles qui poussent de manière libre en ville. Mais au-delà des produits comestibles qui poussent de manière libre en ville, il y a des initiatives qui se font pour faire pousser de plus en plus de produits comestibles en ville, voire d'en faire une petite culture. Il y a une initiative dans la ville de Québec qui s'appelle les Urbainculteurs. C'est un organisme à but non lucratif qui est né en 2009. Et leur mission à eux, c'est de favoriser la culture de produits comestibles en pleine ville, dans le centre-ville de Québec. Et ils se sont associés avec différents hôtels, des institutions, des entreprises, comme le toit de certains grands hôtels, le toit de la microbrasserie La Barberie. Et puis, sur ces toits, ils vont faire des toits verts, mais non conventionnels. Là-dessus, ils vont y faire pousser des légumineuses, différents légumes, des légumes racines, des petits fruits, et en plein centre-ville. Et puis, ils plantent ça au printemps. Et puis, au mois de septembre, c'est la récolte. Et puis, c'est leur troisième récolte cette année. Et ils vont vendre les produits de cette récolte-là dans différentes boutiques d'aliments naturels à travers la ville. Et c'est des légumes 100% bio, mais qui ont poussé en plein centre-ville. Ce qui peut sembler un peu paradoxal, mais étant donné qu'ils sont cultivés de la méthode que les cultivateurs choisissent, ça donne le résultat choisi. Et paraît-il que c'est une initiative qui est fort prometteuse. Et même que les urbainculteurs ont décidé de faire une nouvelle initiative cette année, c'est le miel urbain. On sait tous que bon nombre de personnes savent que les abeilles ont un peu de difficultés ces temps-ci, surtout dans l'hémisphère nord, ils tendent à disparaître pour des raisons inconnues. On ne sait pas si c'est les pesticides, les cellulaires, la monoculture. On ne sait pas exactement quel facteur amène ça, mais semblerait-il qu'ils ont des problèmes au niveau de la reproduction ou dans tous les cas, ils tendent à disparaître. Et les urbainculteurs ont voulu un peu les aider en faisant le miel urbain. Et pour cet exercice, ils amènent des ruches entières et vont porter ces différentes ruches en plein centre-ville de Québec et les abeilles, évidemment, s'occupent du reste. Alors, encore une fois, ils ont fait des partenariats avec des grands immeubles à Québec, des hôtels assez connus, différentes institutions, et là-dessus, ils mettent leurs ruches. Et puis, les abeilles vont parcourir les différents jardins et vont recueillir le pollen d'orchidées et puis de toutes sortes de plantes exotiques. Ce qui fait que ça donne comme résultat un miel qui est potentiellement encore plus exotique qu'un miel qu'on peut acheter en épicerie. Dans tous les cas, le résultat est un miel assez clair et très très doux, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. C'est pas un miel typé comme les miels sauvages ou un miel de sarrasin qui est vraiment foncé, mais ça donne un miel très clair et très doux. Ils ont 10 ruches qui sont en train de dont ils s'occupent à travers la ville de Québec. Et puis, ça donne une production assez stable de miel. Et ils cherchent à faire adopter des nouvelles ruches par des particuliers à Québec. C'est donc dire que des gens peuvent se porter acquéreur d'une ruche et puis s'occuper de manière minimale de cette ruche-là. Et puis, ils mettent en commun le miel à la fin de la saison et puis ça donne un miel urbain de Québec, ce qui est assez particulier puisque ça peut presque constituer un produit du terroir, mais d'un centre-ville. Alors, c'était une initiative à souligner parce que on sait que les abeilles ont vraiment besoin d'être aidées puisqu'ils pollinisent à peu près 70% des aliments qu'on consomme. Alors, c'est un chapeau aux urbainculteurs à Québec et puis leurs initiatives de culture de plantes comestibles et surtout leur initiative de miel urbain. On va aller en pause musicale avec le groupe Attache Tatuc.
Mon nom c'est Jean-Guy. Jean-Guy du guide en fait du femme après ma femme a pris du bengue. Elle savait c'est le samedi au bingo. Moi c'est le bowling, puis mes loto lingo. J'suis gros, fait c'est ça, j'me gratte le cul devant le plus cheap des crues de la SQ. Ma femme la charrue est au kiosque entre mes soeurs avec ma fille la brue, puis ma truie de belle soeur. S'en va, c'est ça, le centre d'achat va fermer. Mes slips sentent bizarre, mon dentier goûte renfermé. La bière d'hier, le café des exports, t'es fat.
Hey la gueule!
J'avais mes vieux chums d'achat. Coller, c'est tout ce que tu veux dans un centre d'achat.
Coupe longue et puis une moustache pour sound. 50 d'ailleurs, puis les poids du nez qui sound.
La grosse maison est en plastique. Tes copines gonflables, c'est tout du plastique.
Que ma haie, pis que je vois pas la moindre de cette mauvaise herbe sur mon parquet.
Basket,
ce qui dépasse,
c'est pas beau.
Ton kid échappe son frisbee dans ma cour, je donne une claque en cadeau. Passer de la crap, les ados. J'ai le plus beau set de patio, peu résine de synthèse. Pis c'était tout des spéciaux, la table, le parasol, les chaises, trouvé au Renault dépôt. Mais là, je prends ma hausse, parce qu'il est temps que j'arrose mon gazon synthétique. Mes flammes arrosent du pic, mes belles roses en plastique. Faut vraiment que ça brille à soir, on soit belle famille. Comme demande, chaise pliante, sandwich, pas de croûte en triangle. C'est pas parce que ça me tente, mais c'est parce que pain paraît ça me hante.
C'est pas parce que ça me tente, mais c'est parce que pain paraît ça me hante.
Ta grosse moustache est en plastique. Ta fucking sexy, c'est tout du plastique.
Prends le pont pour le banlieue, comme que c'est un grand lieu. Ça a l'air qu'il y a plus d'oxygène qu'en ville, c'est tant mieux. D'où on se cassera pas le cul en deux. Hey bro, de luxe, je me jette au maillot centre d'achat. M'acheter un t-shirt Canada, ça va faire changement de celui que j'ai marqué Hochelaga. Boom, bat dans Civic Platine, pour pouvoir blaster ma musique latine. Straight up d'Amérique latine. Je suis vraiment régulier au niveau de la barbe pis de la pédale à plein temps. Sur le boulevard, des petites popones de 15 ans qui font comme s'il y en avait 20 ans, gros terrain dans. C'est que je fais ici, sérieux. Starter un méga pouce, pis jamais me faire pogner. Check-moi bien, dernier style corvette, petite quéquette molette, pis plastique doré. Tondeuse la mort, chop de part sur le Barbie. Pendant que ça cuit, ça c'est ça souhait pour Barbie, gros c'est le party.
De retour à État de splendeur. Vous venez d'écouter le malheureusement défunt groupe Attache Tatuc avec la fameuse pièce Plastique Doré qui parle de l'esthétique artificielle de la banlieue, en gros. Et pour poursuivre l'émission, nous allons parler d'une... nous allons faire une brève incursion dans le monde mycologique au Québec. Le monde mycologique. La culture des champignons ou d'aller aux champignons n'est pas tout à fait développée au Québec. C'est plus présent dans le vieux monde, dans les pays comme la Belgique, la Suisse, la France, même en Angleterre. C'est une habitude là-bas tout à fait normale, peut-être pas 100% répandue, mais très, très répandue quand même, de se réveiller tôt le matin pour aller chercher les champignons. C'est pas tout à fait développé au Québec, c'est pas très répandu ou ni encore un réflexe très répandu que de se réveiller à 5 heures du matin pour aller aux champignons, panier au bras. Mais néanmoins, il y en a certains qui font perdurer cette tradition au Québec puisqu'on a un patrimoine mycologique insoupçonné au Québec. On a vraiment beaucoup de champignons qui sont très, 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 très savoureux. Et souvent, c'est des variétés qu'on retrouve en Europe et il y a même bon nombre de variétés qu'on ne retrouve pas. Et la tradition mycologique, aller cueillir des champignons, il y a toujours eu une petite minorité qui l'ont fait au Québec, et puis c'est en train de prendre un certain essor quand même. Les premiers à avoir un peu popularisé ça, c'est le Cercle des mycologues de Montréal, et il y a aussi le Cercle des mycologues de Québec. À Montréal, le Cercle des mycologues faisait des rencontres régulières au Jardin botanique de Montréal, et on pouvait, suite à ce qu'on ait été dans la forêt chercher des champignons, on pouvait amener ces champignons au jardin botanique pour les faire identifier par des mycologues. Et pour être certain, la prochaine fois qu'on retrouve un champignon comme ça, si c'est un champignon comestible, qu'on puisse le cuisiner et se faire une très heureuse omelette avec. Il faut savoir que la tradition d'aller cueillir des champignons n'a pas été... renforcé par le fait que dans le monde autochtone, ils n'avaient pas une grande place pour le champignon dans leur gastronomie. C'était, pour ainsi dire, pas cuisiné, quoique c'était probablement cuisiné dans certaines instances, mais c'était surtout considéré comme un produit médicinal. Et puis, c'est pour ça qu'il n'y avait pas une base de culture d'aller aux champignons chaque matin. Par contre, les Français qui sont arrivés ont découvert vraiment des variétés prodigieuses de champignons chez nous, dont leur très prisé cèpe, qui est un peu le cèpe, bon, c'est le roi des champignons, ou presque, là. C'est quelque chose qui est, c'est tellement un champignon charnu et aromatique que on peut dire que c'est le roi des fromages. Et ils ont trouvé des cèpes ici au Québec, et des cèpes fort agréables d'ailleurs. Ces champignons-là, que certains Russes appelaient la chair des forêts, est cueilli désormais par non pas seulement le cercle de mycologues, mais le public en général de plus en plus. Et il y a aussi une autre tradition qui est vraiment qui prend de l'essor, c'est aller à la cueillette des morilles. Ça, c'est plus pour des raisons lucratives, évidemment, mais un peu comme il y a une tradition pour les jeunes d'aller... à l'adolescence, on va souvent sur la côte ouest pour cueillir des fruits. Et maintenant, il y a une tradition qui veut que, plus que planter des fruits ou aller planter des arbres, cueillir des fruits ou aller planter des arbres, on va à la cueillette des morilles. Alors, souvent, ça se fait en Abitibi ou la baie de James. Ça se fait aussi en Alaska ou Yukon, etc. Mais chez nous, c'est dans le territoire autour de la baie de James, dans la taïga, quoi. Et puis, c'est souvent après des feux de forêt, on va trouver des morilles qui poussent dans ces régions-là. C'est souvent associé au pin gris, ce champignon-là. Et puis, dans les forêts de pin gris qui ont passé au feu... on sait que les pins gris, en fait, ont besoin du feu de forêt pour se reproduire parce que c'est ce qui va libérer les semis du pin gris. Et puis, les morilles vivent en symbiose souvent avec les forêts de pins gris. Donc, juste après qu'il y ait eu un feu de forêt en Abitibi ou la baie de James dans une forêt de pins gris, Il y a beaucoup de jeunes qui, et de moins jeunes d'ailleurs, qui partent à la recherche de cette morille, puisque c'est un champignon quand même assez lucratif. C'est dans les plus chers après la truffe qui, elle, vaut plus cher que de l'or ou presque. Et donc, la morille de feu a un statut culte maintenant dans la taïga. Et il y a plein de restaurants qui recherchent ça parce que c'est un caractère fumé vraiment, vraiment très agréable. C'est un très bon champignon, la morille. Et puis, donc, les premiers spécimens viennent d'arriver, qui ont été se faire cueillir. Il y a aussi la culture de champignons, mais ça, c'est un peu plus difficile de cueillir des champignons. Tout le monde sait qu'on peut cueillir des champignons de Paris, ça. On a ça depuis qu'on est tout petit. Mais les pleurotes à cultiver sur une grande échelle, ça demande quand même un certain effort. Mais il y a une compagnie dans Charlevoix qui s'est œuvrée à faire ça. Il y a eu aussi beaucoup de tests qui sont faits par un pionnier mycologue en Abitibi. Et dans Charlevoix, ben, il y a Champignons Charlevoix qui se sont lancés dans la culture de pleurotes et connaissent un succès finalement, puisque c'est depuis 2002 que ça se fait. Et cette entreprise-là a trouvé une méthode de cultiver des champignons sur une souche humide. Et aujourd'hui, sur près de 2000 m², ils cultivent des pleurotes. Et leurs pleurotes sont très prisées par bon nombre de restaurants très respectables à travers le Québec. Et donc, c'est quand même quelque chose à souligner que Champignons Charlevoix. Et puis même à Montréal, si on veut s'initier au monde mycologique, c'est très possible. Il y a la Mycoboutique, c'est sur Rachel et Saint-Laurent. C'est une boutique qui, elle, se spécialise dans équiper les personnes qui veulent aller cueillir des champignons ou tout simplement connaître les champignons de chez nous. Et d'ailleurs, les cuisiner, ils ont tout ce qu'il faut pour... cultiver les champignons et puis aller les cueillir. On sait que on va pas cueillir des champignons avec un sac en plastique parce que ça favorise leur moisissure. Donc, c'est vraiment avec un panier qu'on va chercher des champignons. C'est pas parce qu'on a la nostalgie du monde champêtre, c'est vraiment parce qu'un sac en plastique détériore les champignons. Alors, il y a toutes sortes d'outils pour aller à la cueillette de champignons, des guides pour les identifier. Et puis, s'il y en a qui veulent se lancer dans la culture de champignons, il y a des kits qui sont là avec des spores et puis des médiums de culture. Et bon, il y a aussi dans les marchés publics qu'on peut s'approvisionner dans différents champignons sauvages qui sont cultivés. Là-bas aussi, à la Mycoboutique, on peut en trouver. Il y a des bon nombre de produits transformés qu'on peut faire avec aussi des huiles et des moutardes. Et puis, c'est un point de départ assez utile pour ceux qui veulent commencer à prendre comme habitude que d'aller aux champignons. Il y a même des rencontres périodiques à travers l'été pour aider à initier les gens à la mycologie, si on va dans différentes régions. Et puis, on fait des parcours en forêt pour découvrir les champignons qui poussent. Ceux qu'il ne faut pas manger et ceux qu'on peut se permettre de manger. Et donc, finalement, ça va aider les gens à être initiés au plaisir de cueillir un bolet frais recouvert de rosée. Pour tout de suite, on va aller en pause musicale avec une pièce qui s'appelle Attached du groupe anglais Orbital. We'll be right back. De retour à État de splendeur, vous êtes toujours en compagnie de Patrick Assikian. Et puis on parlait précédemment du monde mycologique et avant ça, on parlait du fait que c'est le temps des mûres et des framboises. Et puis effectivement, c'est un temps fort agréable de la période estivale, mais mis à part les confitures et les sorbets, qu'est-ce qu'on peut en faire des framboises? Il y a bon nombre de choses qu'on peut faire avec et on voit souvent que les produits en Europe sont souvent, les produits dérivés sont beaucoup plus développés, mais au Québec, les mûres et les framboises, ça fait bon nombre d'années qu'on fait des produits transformés avec qui sont fort, fort appréciables. À Saint-Charles-de-Bellechasse, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a la famille McIsaac qui se spécialise là-dedans, dans les petits fruits justement, et faire des produits qui sont intéressants avec ça. C'est-à-dire que dans leur région, ils bénéficient d'un terroir appréciable pour les petits fruits. Les petits fruits peuvent avoir une petite variance dépendamment de la terre sur laquelle ils poussent. Et puis là, eux, ils sont dans les contreforts des Appalaches. Ils ont un sol très propice à donner des baies très juteuses. Et il y a des précipitations abondantes à cause de la neige et tout ça. Et puis ça favorise une saveur assez présente dans leurs petits fruits. Et ils traduisent ça par des vins, des liqueurs et des mistels qui sont très, très agréables. Ils transforment la framboise et les mûres, mais aussi d'autres baies moins connues comme le sureau et bien d'autres produits. C'est vraiment à découvrir. Ça se retrouve quand même assez de manière assez répandue. Mais ce qui était vraiment prodigieux de leur part du Ricaneux, c'est qu'en 1988, ils ont fait un vin de framboise qu'ils ont mis dans des fûts de chêne, ce qui est vraiment c'est ce qui coûte excessivement cher à faire ici. Et puis, ils l'ont oublié pendant quelques années. Et pour se rendre compte plus tard que c'était devenu un vinaigre. Mais un vinaigre des plus appréciés, des plus hauts gastronomes, c'est donner un vin de framboise vieilli en fût de chêne pendant 8 ans. Et c'était probablement un des meilleurs vinaigres faits en Amérique du Nord pendant un certain temps. C'était un secret bien gardé. Ils n'en avaient pas beaucoup. C'était une erreur de parcours. Et puis maintenant, les gens en cherchent. Mais malheureusement, il n'en reste plus puisque c'était en 1988 que ça s'est fait. Alors, ils ont recommencé à en faire, mais il va falloir attendre encore quelques années avant qu'il y en ait d'autres disponibles. Et c'est dommage parce que la situation légale des produits alcooliques artisanaux au Québec ne permet pas leur essor, à part dans les marchés publics. C'est très difficile de s'en produire. On peut en trouver quelques-uns à la SAQ, mais sinon, ceux qui sont producteurs artisanaux sont résignés à vendre chez eux. Mais avec un peu d'évolution de la réglementation, ça va probablement se diffuser un peu plus. Alors, la chronique fantomatique, il nous reste à peine quelques instants pour faire un clin d'œil à un métier disparu en France, ou presque disparu, c'est le métier d'alambic. Une tradition qui ici n'existe pas malheureusement puisque les alambics sont illégaux. En France, il existe des alambics, des distillateurs ambulants en fait, qui parcourent les villages, ils vont de village en village et ils transforment les fruits en eau de vie. Parce que le coût de revient industriel pour transformer les fruits en eau de vie ne sont pas nécessairement compétitifs. Donc, ils ont donné des permis depuis très, très longtemps à des gens. Et puis, pour se trimballer avec un alambic de village en village. Et puis, ils vont voir des gens qui ont tel ou tel fruit. Et puis, ils leur offrent de transformer leurs fruits en eau de vie. Et c'est un métier traditionnel qui se passe de père en fils depuis la nuit des temps. Et on appelait ça traditionnellement un bouilleur de cru. Donc, il peut aller chez un individu que je connaissais qui habitait en Champagne, un monsieur Alain, qui avait des poiriers d'une hauteur vertigineuse et puis il attendait impatiemment la venue du distillateur ambulant pour donner ses poires et puis en faire une eau de vie de poire assez exceptionnelle qui s'appelait le poire mine. Ça n'existe plus malheureusement. Et depuis 1960, ce privilège ne peut plus se transmettre de père en fils. Alors, on retrouve quelques bouilleurs de cru et distillateurs ambulants qui existent encore et qui parcourent les villages. Mais à chaque année, il y en a de moins en moins et ça risque de disparaître un jour. Au Québec, il n'y a même pas de distillateur ambulant. On n'a tout simplement pas la permission de distiller ces fruits pour en faire une autre vie. Par contre, il existe ceux qui ont Il existe certains exemples de personnes qui ont des permis pour faire des distillations. Et un des rares au Québec est Michel Jaudoin, qui a la cidrerie du même nom, la cidrerie Michel Jaudoin. Lui a eu la permission exceptionnelle d'utiliser un alambic et a réussi à faire un brandy de pomme qui, non sans rappeler certains calvados qu'on retrouve en Normandie. Alors souhaitons que ce soit une tradition qui aille en croissant, que l'utilisation de l'alambic pourra faire, non pas des alcools frelatés, mais des alcools de très bonne qualité qui mettent en valeur nos précieuses ressources. C'est tout pour l'émission État de splendeur de cette semaine. On va se quitter sur le fond d'une pièce de Mosso et je vous laisse en compagnie de mon collègue Jean-Édouard. Je vous invite à rester à l'écoute et je vous souhaite une bonne semaine.
Les week-ends du monde au parc Jean Drapeau. C'est un rassemblement de Montréalais de toute origine. Venez célébrer la diversité culturelle en musique, en danse et en découverte culinaire. Samedi 16 juillet, Festival cambodgien, la Chine à Montréal, le Festival cubain et le Festival Afro-Monde. Dimanche 17 juillet, Festival national de la Colombie, Mexique ici présente, Festival Montréal sous compas et le Carnaval brésilien. Tous les détails au www.parcjeandrapeau.com.
En ondes depuis 1991, Folie 12 vous informe sur les différentes facettes du monde de la santé mentale. Soyez des nôtres chaque jeudi matin de 10h à 11h sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102,3 FM à Montréal. Attention, cette émission peut provoquer la dépendance. Nous préférons vous en avertir.
Bonjour Montréal. Un reportage d'actualité hebdomadaire. 2 heures pour vous dévoiler la même histoire sous différents points de vue. En addition, nous vous offrons de petites astuces ici et là pour rendre votre vie quotidienne hors de l'ordinaire. Rejoignez-nous chaque dimanche matin de 8 à 10. Bonjour, Montréal.
Tout l'été, l'événement Les Parcs en prose vous offre gratuitement des livres dans plusieurs parcs à Montréal. Pour connaître les détails, visitez les sites web suivants. Les Ailes de la Culture et Édition Pointe Fuite Radio Centre-Ville sont les fiers partenaires de cette première édition.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.